Le masque. Hier, de nombreux professionnels de la santé ont exprimé un point de vue clair, demandent au gouvernement de rendre obligatoire le port du masque pour les personnes de plus de 12 ans dans les lieux publics fermés, dans des espaces extérieurs où il est impossible, on le voit dans les manifestations, de respecter cette distanciation physique. Bref, dans le métro, par exemple. Et jusqu'à maintenant, la réponse est « on vous le recommande fortement ». Mais on ne vous l'impose pas. Et un de ceux qui a appuyé cette demande, c'est notre collaborateur, le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, pourquoi c'est important de rendre ça obligatoire, selon vous?
Bien, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse la promotion très intense de porter un masque de façon universelle. Et quand on dit obligatoire, il faudrait pas que ce soit quelque chose de pénalisant où la police va se mettre à arrêter des gens parce qu'ils ne portent pas de masque. Au contraire, je pense même qu'on pourrait dire à la police de distribuer des masques quand ils le peuvent, et il faut que ce soit un aspect collaboratif. Ceci étant dit, pourquoi c'est important de porter un masque? Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent l'efficacité des masques pour diminuer de façon générale, sur une approche populationnelle, la transmission du virus. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce virus-là? On sait premièrement que c'est un virus respiratoire, n'est-ce pas? Ça se transmet par des gouttelettes, ça se transmet par les voies aériennes, que les points d'entrée principaux du virus sont la bouche et le nez, donc les voies aériennes encore une fois, qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a une étude qui a démontré qu'il y avait trois choses importantes. Le masque, la distanciation physique à partir de 1 mètre, il y a une certaine protection, et pour chaque mètre supplémentaire, on a une protection additionnelle, et la protection oculaire qui peut avoir aussi, une efficacité marginale. Le reste, ben écoutez, à date, on n'a pas vraiment d'autres données, puis on n'a pas vraiment autre chose pour suggérer de diminuer la transmission. On n'a pas de vaccin, on aimerait en avoir un. On n'a pas de médicament qu'on peut vous donner en prophylaxie en disant, écoutez, si vous prenez par exemple le médicament X, même si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a la maladie, votre risque de tomber malade est beaucoup plus faible. Et puis on retourne à une vie totalement justifiée d'ailleurs, de déconfinement où on doit reprendre une vie plus normale pour toutes sortes de raisons, des raisons de santé, on en a discuté, des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons psychologiques. Et donc forcément, on va avoir le 2 mètres qu'on dit en termes de distanciation physique, notre barrière de sécurité. Ben c'est clair que quand vous allez aller à l'école, à l'université, retourner au travail, aller dans le métro, on ne pourra pas tenir ce 2 mètres. Donc l'ensemble des choses fait que le masque devrait être très, très, très fortement encouragé. D'ailleurs, il y a quasiment 120 pays qui l'ont fait sur la planète. C'est une recommandation du CDC aux États-Unis. C'est une recommandation de l'ECDC, qui est le pendant européen de la communauté européenne. Quasiment tous les pays, je vous dirais, d'Afrique, du Moyen-Orient, enfin d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, beaucoup de pays en Asie ont pris aussi cette tendance-là. Alors, et je vous dirais même, ce qui est intéressant dans toute l'histoire, c'est que le ministère, nous on l'a déjà fait il y a très longtemps dans mon hôpital, à l'hôpital juif. Au début, on a eu même, je vous dirais, une certaine contestation pourquoi on l'a fait. Après ça, tout le monde l'a suivi pour les professionnels de la santé. Mais il n'y a pas longtemps, le ministère lui-même a envoyé une lettre aux institutions pour dire que le port du masque, en plus de la visière, devrait être universel et constant pour tous les travailleurs de la santé. Donc, ils sont totalement d'accord pour dire qu'il y a une protection offerte par le masque. Donc, tout ça mis ensemble fait que c'est un outil supplémentaire qui n'est pas une panacée, qui n'est pas absolue, mais dans la lutte pour favoriser un bon déconfinement et qu'on ne revienne pas à une situation précédente, en attendant autre chose, c'est ce qu'on a un peu de mieux.
Bon, alors, c'est un peu paradoxal. D'un côté, je prends l'exemple Toronto, à partir du 2 juillet, le port du masque sera obligatoire. Ici, il est fortement suggéré. Hier, j'écoutais le Dr Arruda qui disait « J'ai besoin encore de prendre connaissance de la littérature scientifique. » Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que ça a l'air assez clair pour tout le monde, sauf pour les décideurs ici, là.
Bien, tout à fait. Comme vous savez, je sais pas. Parce que la littérature, vous savez, on a décidé d'avoir de la distanciation physique, mais personne n'a attendu des études de distanciation physique au mois de février, au mois de mars, pour dire on va commencer à faire de la distanciation physique. On s'est lancé dans une aventure avec raison d'ailleurs, hein, et je pense que M. Legault, c'est lui qui a pris la décision, et ça a été une décision courageuse quand il l'a faite, et à ce moment-là, de nous lancer dans un confinement au Québec, on n'a pas attendu d'avoir une étude de confinement pour dire est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Alors, de la même façon, les masques, on a de plus en plus de données. On n'a pas la capacité au Québec de trouver des choses différentes de ce que le CDC aux États-Unis a trouvé, de ce que les experts de l'Union européenne ont trouvé, de ce que les experts dans les autres pays du monde ont trouvé. Alors, je vois pas comment, au Québec, on pourrait interpréter la littérature de façon différente, si ce n'est que on ne veut pas favoriser le port. D'ailleurs, on fait attention de ne pas dire le masque, mais on dit le couvre-visage. On veut jouer peut-être sur la sémantique des mots. On est d'accord sur le fait qu'il faut se couvrir le visage, puis on peut appeler ça comme on veut, c'est pas important. Mais l'idée, c'est finalement d'encourager les gens à porter quelque chose qui va couvrir leur visage pour les protéger et protéger les autres contre un virus pour lequel on n'a rien d'autre.
Et j'entends aussi les arguments qui sont, ben vous savez, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un masque, d'acheter un masque. Il y a des gens qui portent, qui ne sont pas à l'aise, qui étouffent, qui ne se sentent pas bien, qui ont des allergies. Il y a une série d'arguments comme ça qui sont donnés pour dire, ben voyez pourquoi on ne peut pas le rendre obligatoire.
Alors, écoutez, l'aspect des allergies, etc., c'est recevable. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé particuliers. On peut faire quelques exceptions, puis c'est correct. Vous savez, en médecine, on fait toujours ça. C'est pas important. L'aspect du coût, écoutez, la pandémie nous a coûté, je sais pas combien, mais certainement au-delà de 20 milliards de dollars au Québec. Vous avez vu le taux de chômage, vous avez vu le nombre de points d'indices de pertes en termes de notre produit national brut. Que le gouvernement achète quelques millions de masques, ce serait probablement pas la plus grosse dépense actuelle dans le contexte de cette pandémie-là. Donc, si on doit fournir des masques à des gens qui peuvent pas s'en payer, à mon sens, ce serait beaucoup moins, je dirais, cher et beaucoup plus rentable en termes d'investissement que les coûts d'hospitaliser des gens et de les traiter aux soins intensifs avec de la COVID-19. Là.
OK. Là, j'ai besoin de votre éclairage sur la question de la visière, parce que je lisais ce matin dans des journaux, entre autres au Canada, qu'il y a l'Université de l'Iowa qui a fait une première étude et qui tend à démontrer ou laisse croire que la visière serait un bon outil, pas juste pour les professionnels de la santé. Plus facile à porter qu'un masque, plus facile à nettoyer qu'un masque. Qu'est-ce que vous en pensez de la fameuse visière là, pour le commun des mortels?
Ouais. Je vous dirais que c'est un peu plus difficile parce que la visière ne vous protège pas les voies aériennes de façon parfaite. Moi, je porte une visière et un masque quand je travaille et que j'ai un contact direct avec des patients, puis j'ai travaillé là-dessus avec des patients en soins intensifs et sur les unités. C'est évident que c'est pas facile, mais on s'habitue. Il y a, je vous dirais, entre les deux, il y a moins de données avec les visières qu'avec les masques. Il y a aussi le fait que la visière ne vous protège pas directement, parce que si, par exemple, vous êtes debout et quelqu'un est assis à côté de vous dans le métro, ben à ce moment-là, que la personne vous tousse vers le haut, ben vous allez être exposé indirectement avec une visière. Donc la visière, c'est un protecteur supplémentaire, c'est une barrière physique intéressante. Dans le milieu de la santé, je vous dirais, c'est certainement plus utile d'avoir des visières pour la population générale. La plupart du temps, je dirais que c'est probablement moins efficace qu'un masque. Ceci étant dit, il y a aussi une éducation à faire sur le masque. Je reçois beaucoup de courriels ou de choses de la part des gens me disant « j'étouffe, je ne peux pas respirer », etc. Puis c'est vrai que ce n'est pas confortable, ça ne fait pas partie de l'habitude des gens de porter un masque. Mais je peux vous dire que ce n'est pas si compliqué que ça, qu'il n'y a pas de danger de s'étouffer avec un masque. On ne va pas s'évanouir en portant un masque. Même les gens qui sont claustrophobes, c'est pas un problème de porter un masque. Donc, il y a un aspect, je pense, explicatif sur le port du masque qui devra aussi être fait. Mais entre les deux, je vous dirais que la visière, c'est un ajout à la capacité de protéger du masque.
Bon, dernière question. Je parlais avec le président de Transat il y a quelques minutes. Bon, ils vont reprendre les vols à partir du mois de juillet. Puis on a eu une discussion sur comment les gens vont se sentir à l'intérieur de l'appareil. Parce que j'ai beaucoup de questions de gens qui disent « Ouais, mais là, c'est un milieu fermé ». Peut-être que les gens ont des masques, mais on est quand même très près. Et là, M. Eustache me disait, bon, ben là, on va passer du 2 mètres à 1 mètre de distanciation. On se rapproche, si on veut. Et que de toute façon, les gens dans un avion, ils regardent par en avant. Et que s'il y en a un qui tousse, ben ça ne dérange pas la personne qui est à côté. Et qu'il n'y a pas eu de cas de mort de gens qui ont eu la COVID dans l'avion.
Écoutez, ce qu'on sait avec les avions, c'est qu'habituellement, l'air circule de façon latérale, c'est-à-dire que lorsque vous êtes assis dans un avion, vous partagez l'air avec les 2-3 rangées en avant de vous et les 2-3 rangées en arrière de vous. Donc, c'est ces gens-là avec qui vous partagez votre air. Bon, l'air des avions, c'est un air, entre guillemets, d'assez bonne qualité parce que c'est un air qui est continuellement filtré. C'est un air qui, une certaine partie, est cherché à l'extérieur. Donc, quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, l'air qui est pris dehors, c'est de l'air qui est quand même de qualité, je vous dirais, en termes de propreté. Donc, sur cet aspect-là, l'air des avions n'est pas un mauvais air. Par contre, c'est clair que vous allez partager votre air avec quelqu'un qui est situé deux rangées, trois rangées derrière vous, deux rangées, trois rangées en avant de vous. Et ces gens-là, ben, c'est sûr que s'ils toussent, vous allez partager l'air avec eux. L'autre chose qu'il faut dire, ben, je pense que c'est clair que les gens vont devoir porter un masque parce que ça va faire partie de la protection. Mais il y a aussi l'aspect du contact. Alors, par exemple, comment gérer les gens qui vont se promener, qui vont aller aux toilettes durant le vol? Est-ce que là, on peut toucher des surfaces? Si quelqu'un tousse, enlève son masque? Bon, alors, est-ce que le risque est nul? Non. Est-ce que tout doit être fait pour minimiser le risque? Oui. Puis, c'est comme tout et n'importe quoi. Je vous dirais, les voyages en avion vont reprendre et doivent reprendre, mais c'est pas sans zéro risque. Et je pense qu'éventuellement, on va aussi s'améliorer dans la façon dont ça va être géré. Vous savez, entre le début de la pandémie et maintenant, on gère mieux les patients dans les hôpitaux. Probablement, quand le début le retour des vols est 3 ou 4 mois après, on gérera mieux ça. Mais c'est sûr que vous allez partager l'air avec les gens qui sont 2-3 rangées en avant de vous, 2-3 rangées en arrière de vous.
Parfait. Encore une fois, très intéressant. Merci beaucoup, Dr. Weiss.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste. D'ailleurs, c'est le président de l'Association des médecins microbiologistes, infectiologues du Québec.